Yes, sir!
Leclerc Communication vous rappelle que tout ce qui passe mode revient inévitablement au goût du jour. Le disco avec Daft Punk. Karate Kid avec Cobra Kai.
All right, you ready to begin your training?
Yeah, sensei.
What the... Oh! Lesson one, strike first. Mercy is for the weak.
Le pop-punk avec le revival de Blink-182. Puis même les coupes longueuilles puis les permanentes.
Jeff qui me dit, là, moi, je m'en vais me faire faire une permanente.
OK.
Puis je vois que Nathan a une permanente.
J'ai pas de permanente, moi. Ouais, c'est mes cheveux à moi, ça.
OK.
Ça frise de même, moi.
C'est tout à ton nom.
C'est tout à moi, ça.
Boulevard 102. Le retour de la force de la radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ce soir, puisqu'on parle d'un excellent sujet avec un excellent invité que j'ai reçu il y a de ça quelques semaines. Puis en discutant avec Pascal, on s'est dit que ce serait intéressant de le recevoir avec nous autres en studio, mais pour plus de 60 minutes. C'est un avocat, c'est Maître Lapointe. Comment allez-vous, M. Lapointe?
Ça va bien, merci de l'invitation.
Très content que vous soyez avec nous autres. Un avocat en immigration, comment on se spécialise en immigration?
Bien, c'est vraiment sur le tas. Là. Bon, à l'université, il y a un cours de droit de l'immigration qui se donne à l'époque quand j'étais à l'Université Laval.
Ouais.
Il ne se donnait pas. Mais maintenant, on peut au moins avoir un cours minimalement pour des connaissances de base, mais c'est du droit administratif. La meilleure manière de l'apprendre, c'est vraiment de lancer des dossiers dans la machine puis voir comment c'est traité par les fonctionnaires. C'est très c'est de la conformité. C'est un peu comme monter un prêt hypothécaire, exemple. On a une liste de documents à produire, on envoie les documents, mais là, il y a un agent qui va se pencher sur le dossier. C'est juste que de plus en plus, on voit la rigidité des agents d'immigration.
Ouais.
Une coche mal taillée, on perd son statut au Canada. Donc, c'est pas un jeu non plus. Là, ce que je dis, c'est pas... On apprend ça en déposant des dossiers, les yeux fermés. Il faut vraiment quand même avoir un peu de mentorat. Et, parenthèse là-dessus, c'est peut-être ce qui manque actuellement dans l'écosystème des avocats en droit de l'immigration. Beaucoup de jeunes avocats, ça c'est très bien, mais qui ne sont pas mentorés. Et même dans la pratique en général, il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui sont tout seuls, travaillent depuis 30 ans dans leur sous-sol chez eux. C'est important de suivre la formation continue. On a un beau forum d'échange avec l'Association des avocats en droit de l'immigration où est-ce qu'on se pose des questions. Il faut se tenir à jour, ça bouge très vite.
Maxime Lapointe, avant de devenir avocat, comment il a eu l'idée de s'en aller à l'Université Laval en droit?
Pour l'Université Laval en droit, j'avais deux applications dans ma petite poche en 2003. Là, j'avais droit puis communication. Puis j'ai mis droit dans la boîte aux lettres parce que je trouvais que les débouchés étaient plus variés que communication. Puis à l'époque, j'avais les notes pour entrer. Là. C'était peut-être plus facile aujourd'hui, en 2003, de rentrer. Là. Donc j'avais la quota, j'ai été accepté. J'avais pas l'intention de transformer la pratique du droit. Là. J'avais pas d'intérêt particulier. Ma famille vient pas de ce milieu-là non plus. Mais j'avais la facilité quand même de passer les cours tout en travaillant au pub à l'Université Laval comme serveur. C'était mes grosses années. Donc moi, je prenais des sessions allégées.
Donc tu as sorti de ton cours en droit à l'Université Laval, pas de dette.
Non, exact, pas de dette, parce que j'habitais à Québec chez mes parents aussi, puis c'était payant au pub.
Ça,
mais
exact.
Après 2 ans de 4 cours par session, je me suis dit, OK, si je prends 2 cours l'été de ma deuxième été, 5 cours, pardon, l'automne, 6 cours l'hiver, 3 cours l'été de ma troisième année, je vais finir par rentrer au barreau en 3 ans, après 3 ans d'université, puis j'irai me reposer au barreau. Donc, j'ai fait l'équivalent d'un demi-bac en un petit peu plus qu'un an.
Okay.
Mais à l'époque, le barreau, il y avait une formation de soit 4 mois, le cours professionnel direct, ou 4 mois d'exercice pratique, puis 4 mois de cours professionnel. Donc, je savais que les 4 mois de barreau, ça allait être relax. Puis ça a été payant pour moi là, de me dépêcher à finir mon bac, finalement, puis d'arriver au barreau tout l'automne. J'ai des excellents souvenirs. J'habitais dans le Vieux-Port. Le barreau était dans le Vieux-Port. Il n'y avait pas d'examen. C'était super relax.
Est-ce que vous explorez, durant le cours en droit à l'Université Laval, est-ce que vous explorez tous les champs du droit? Est-ce que vous regardez un peu le criminel? Dans le criminel, il y a la couronne, il y a la défense aussi. Est-ce que vous explorez ça aussi?
Il y a un tronc commun. Là. Il y a des cours, exemple, qu'on ne peut pas sortir. Exemple, les obligations conventionnelles, les contrats, droit de la personne. C'est des cours obligatoires. Après ça, on peut se spécialiser ou aller choisir des cours qu'on aime. Exemple, les sûretés, donc les hypothèques, les successions. Droit de la famille, les valeurs mobilières. Donc, on peut aller prendre des cours un petit peu plus pointus. Mais au barreau, ben on fait pas de toute la théorie, mais il y a des disciplines qui sont obligatoires à l'examen. Donc, ça se peut, okay, exemple, moi, droit de la famille, exemple, je l'avais pas fait au bac, j'avais pas d'intérêt. Mais au barreau, il fallait quand même calculer une pension alimentaire au crayon, là, même s'il y a des logiciels pour calculer les montants. Donc, bon, faut quand même être capable de lire, hein, le barreau. C'est pas si difficile, mais c'est facile de se tromper. Si, exemple, la question vaut pour 6 points, le barreau veut 6 éléments de réponse, tu en mets 7, tu perds un point, tu en mets 5, tu perds un point, tu en mets un qui n'est pas dans 6, tu perds un point. Donc, la correction est très stricte. Ça crée beaucoup d'anxiété, on le voit chez nos jeunes au bureau, nos jeunes stagiaires de barreau, surtout ceux qui, je le vois, là, ceux qui ont étudié pendant la COVID à l'université, sont très anxieux, pour ne pas dire fragiles.
OK. Puis est-ce que, parce que quand on était jeune, Maître Lapointe, puis vous êtes à peu près dans mes âges, là, quand on était jeune, on regardait des films hollywoodiens, puis c'était toujours, les avocats, c'était constamment l'avocat de la couronne ou avocat de la défense. Il n'y avait jamais d'avocat qui était spécialiste en immigration ou spécialiste en droit de la famille, alors que c'est important d'avoir des avocats dans ce champ d'expertise-là. Comment on en vient qu'à dire, moi, c'est l'immigration, moi, c'est avocat de la couronne ou moi, c'est avocat de la défense?
Bien, souvent, pendant le stage, ça va déjà nous diriger vers un domaine, à moins qu'on fasse un stage, exemple, dans un grand cabinet qui est un stage rotatif, souvent, là, où tu vas toucher, exemple, 2 mois à droit des affaires, 2 mois à litige, puis 2 mois en d'autres choses, là, finalement. Mais sinon, tu choisis ton stage un peu, puis quand tu commences, après, ça devient difficile de te déspécialiser. Là, quand tu commences, exemple, tu fais un stage en droit de l'immigration, bien, dans mon cabinet, on fait pas de dossier de cours. Donc, ça veut dire que du jour au lendemain, tu finis ton stage, tu n'es pas gardé, mais ça devient difficile d'aller en litige, exemple. Donc, puis l'inverse est aussi vrai, tu es dans un cabinet de droit civil, tu décides de faire du droit administratif, qui est l'immigration. Donc, on vient un peu quand même dans des cases. Mais moi, l'immigration, parce que moi, j'ai fait mon stage en droit des affaires dans une entreprise, mais ensuite, je suis allé en Asie pendant quelques mois avec un sac à dos. Là, j'avais une opportunité, des amis qui partaient aussi. Puis quand je suis revenu, j'ai regardé pour des jobs en Asie et j'ai vu qu'il y avait des jobs en droit de l'immigration à Hong Kong puis en Chine. J'ai envoyé des CV. Ouais, c'est ça. J'ai eu une job en 2010 dans un bureau qui faisait de l'immigration de gens d'affaires dans le programme Immigrants Investisseurs du Québec. Donc, en 2010, je travaillais à Hong Kong dans un cabinet d'avocats québécois à cause que j'ai justement vu l'opportunité d'envoyer des CV, puis en 2012, j'ai parti ma propre compagnie.
À Hong Kong?
Oui. À l'époque, c'était Hong Kong, Vietnam. Moi, j'habitais au Vietnam. Mon partner était en Chine. On faisait la navette Hong Kong, Chine, Vietnam. J'avais 29 ans.
Wow! Mais tu devais être un peu déstabilisé. Je veux dire, ils ne vivent pas comme nous. Ils ont des façons de faire qui sont différentes.
Bien, Hong Kong, c'est assez nord-américain, dans le sens anglo-saxon, disons. Là, les pancartes, disons, le métro, les stations, c'est en anglais, puis on peut se débrouiller assez bien.
Mais les relations d'affaires ne se créent pas quand pareil?
Oui, mais c'est un bel apprentissage, là, justement, parce que quand tu réussis à gagner la confiance, exemple, d'un Chinois en affaires, là, tu la perds pas, premièrement, eux autres. Ils sont durs à avoir, mais après, ils sont très fidèles.
C'est une belle relation d'affaires.
Puis au Vietnam, on a certains, disons, privilèges blancs. T'sais, on arrive, t'es avocat blanc, le client, c'est sûr qu'il te respecte parce que lui, il veut immigrer au Canada, toi, t'es là pour l'aider. Donc, la relation, c'est assez facile à établir, mais ça a été des années extraordinaires là, au niveau de comment faire de la business. De 2010 à 2015, j'ai habité en Asie. Puis ensuite, je suis revenu en 2016 pour faire des dossiers d'immigration tranquillement plus locaux. Puis tout en jumelage, j'ai fait un petit peu moins d'Asie à partir de 2016-17-18, puis plus de dossiers locaux. Puis aujourd'hui, j'ai bien fait parce que des dossiers d'immigrants investisseurs asiatiques, il n'y en a plus. Le programme est fermé, sauf pour des francophones, donc il n'y a plus de marché. Les gens qui ont resté dans cette niche-là, aujourd'hui, n'ont plus de business.
Est-ce que le rythme effréné qu'on a ici en Amérique du Nord, c'est à peu près la même affaire à Hong Kong?
Non, le rythme effréné à Hong Kong, c'est à peu près 10 fois pire que ce qu'on a en
Europe.
Ça travaille beaucoup plus fort, beaucoup plus longtemps, pas nécessairement mieux, mais tu sais, juste dans les mœurs, la journée de travail est beaucoup plus longue. Là, donc, puis après avoir fini le chiffre de travail vers 6-7 heures, ben là, tu t'en vas au resto, tout le monde mange sur le pouce. Exemple, à Hong Kong, les gens ont des petits appartements, donc ils ne cuisinent pas trop. Tu manges sur le pouce, tu arrives chez vous. Exemple, un employé local là, habite souvent à une demi-heure, une heure du centre-ville en transport en commun. Lui va arriver chez eux vers 10-11 heures le soir, va se coucher, va retourner travailler. Puis au Japon, c'est la même chose. En Chine, la culture du travail est beaucoup plus forte qu'ici.
Oui, mais tu sais, n'en avoir pas moins que j'ai des avocats à Québec avec qui je suis en lien régulièrement. Tu sais, Maître Guy Bertrand, qui, je pense qu'il doit être rendu à 80, M. Bertrand. Il fait encore 6-7 jours Bureau par semaine. Maître Marc Bellemare qui fait les émissions avec nous chaque lundi. Très souvent, le samedi puis le dimanche, il est au bureau. Ils ont, le droit semble en prendre beaucoup dans votre vie personnelle.
Bon, c'est sûr que c'est des grosses heures, dépendamment de la demande aussi, dépendamment d'un bureau à l'autre. Exemple, on travaille dans un grand bureau, d'un objectif d'heure facturable, tu veux ton bonus, le bureau, la demande est très forte. Il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup d'avocats, mais quand tu es salarié dans un grand cabinet, tu ne contrôles pas ta destinée. De l'autre côté, quand tu es travailleur autonome, tu veux aussi gagner ta vie. Donc, il faut que tu trouves un certain équilibre. Mais moi, tu vois, je suis à mon compte depuis 2012, donc ça fait quand même longtemps. Puis, tu sais, je me gère. Là, au début, on avait un employé, 2, 3, 4. On est monté jusqu'à 15 l'année dernière. Puis là, aujourd'hui, on est 7. Puis moi, je réussis à avoir une vie. J'ai 2 enfants. Je fais la soupe à mes enfants tous les soirs parce que je suis à mon compte. Mais j'aurais pas la même latitude nécessairement. Dans la pratique privée, dans un cabinet. Puis les deux avocats que tu réfères, Marc Bellemare, Guy Bertrand, mais c'est sûr que c'est une autre génération aussi. Ouais.
Mais vous êtes 3 hommes d'affaires. T'sais, toi, tu diriges ton propre cabinet. Même affaire pour Maître Bellemare, même affaire pour M. Bertrand, quoique Dominique Bertrand semble prendre le lead là, une fois de temps en temps, sa fille. Mais c'est ça, vous êtes des gens qui, pour la plupart, travaillez énormément d'heures parce que vous avez ce job-là à cœur, visiblement.
Ben moi, mon père a une épicerie. Je viens du service à la clientèle. Moi, je suis là pour répondre à la demande. Les gens ont des questions, ont des problèmes. Donc, moi, j'ouvre des plages horaires de consultation pour que les gens me racontent un petit peu leur dossier, puis je donne des conseils juridiques. Puis un sur deux, je dirais, finit dans un mandat pour mon équipe, ou sinon, des fois, je réponds. Puis de plus en plus, je vois que je vais répondre des choses. Désolé, là, il y a beaucoup de resserrements actuellement en immigration. Vous ne vous qualifiez plus, ça ne vaut plus la peine d'insister. Il va y avoir beaucoup de recul à venir, mais à base, moi, je donne du service. Là, je ne vends rien. Quand j'étais dans ma niche immigrant investisseur, là, on vendait le Québec à l'international. Okay. On faisait des séminaires, des conférences dans un hôtel organisé avec des réseaux de partenaires où il y avait 50, 100, 150 personnes dans la salle qui venaient se faire vendre le Québec. Mais depuis que je ne fais plus cette niche-là particulière, je rends des services, je donne de l'opinion, je suis là pour aider. Donc, j'ouvre les plages horaires quand il y en a plus, je les ferme quand il y en a moins, puis je travaille. Moi, je dis toujours, je travaille 30 heures semaine, mais 51 semaines et demie par année. Là. Donc, j'arrête jamais. Je travaille le dimanche soir au bureau pour commencer ma semaine, mais je me gère très bien là-dedans.
T'es dur pour les conjointes, des fois.
Ma conjointe est associée dans mon bureau. En donc, plus. Elle travaille avec moi depuis 3 ans. Puis
donc, elle comprend un peu associée. Plus.
Mais elle aussi, elle a ses dossiers, puis on a des enfants ensemble. Puis moi, je concilie ça vraiment très bien, mais c'est pas donné à tout le monde aussi là, de réussir à bien concilier, surtout quand on a un employeur. Là.
Maître Lapointe, vous avez commencé en 2012, là, on est rendu en 2024. Vous avez toujours fait affaire avec les fonctionnaires. Est-ce que ça s'est amélioré en 12 ans ou ça s'est un peu désagrégé, là?
Non, c'est
la relation avec les fonctionnaires.
C'est de plus en plus contraignant.
Ouais.
Comme je disais, c'est un peu comme monter un prêt hypothécaire, mais dans un prêt hypothécaire, exemple, tu es courtier, il y a une liste de documents, tu les produis, puis ça va. Mais là, l'agent va demander des documents qui ne sont pas dans la liste de plus en plus. Surtout dans le dernier, je dirais, 8 mois au Québec, là, on le voit. Le ministère de l'Immigration du Québec a donné le mot d'ordre à ses fonctionnaires de refuser les dossiers ou de demander un document additionnel pour faire traîner le dossier, de sorte qu'en fin d'année, exemple au 31 octobre, cette année, le quota annuel, si tu veux, le 50 000, si tu trop, là, l'immigrant, recommence au mois de novembre. Mais là, on le voit, la semaine dernière, on a eu plein de demandes de documents additionnels frivoles juste pour faire étirer le dossier.
Ça, c'est intentionnel.
Ben, ça, c'est mon opinion, mais... Ouais. On voit qu'on nous demande des documents de plus en plus exigeants. Donc, dans les dernières... Mais c'est correct, je ne me plais pas nécessairement de ça. Exemple, je reviens encore à ça, la niche immigrant investisseur. Il y a des bouts, peut-être c'était trop facile là, de déposer une demande puis d'être approuvé. Mais là, c'est un peu l'autre côté là, du ballon où des bons dossiers de francophones établis à Québec vont devoir quitter pour la rigidité de fonctionnaires.
Est-ce que, j'imagine que vous suivez pas mal l'actualité, là, un François Legault qui veut déporter des immigrants, vous, en tant qu'avocat, vous avez dû sursauter quand vous avez entendu ça? Là.
Oui, j'ai honte. Puis j'ai eu l'occasion depuis plusieurs années, mais encore sur ce sujet-là particulièrement, d'être invité dans d'autres médias pour commenter. Là, ouais. Les gens me posent toujours la même question, est-ce que ce serait légal de mettre des immigrants dans un autobus? Puis ça, mais... Richard Martineau me posait la question, j'ai répété, ouais, mais j'ai, le fédéral, c'est pas là qu'ils vont aller, ils sont sur le consentement libre et éclairé. Il me dit, ouais, mais ça serait-tu légal de les forcer? Je vois, mais là, de l'autre côté, il n'y a pas une province qui y veut. Puis, je voyais qu'il ne comprenait pas ma réponse, mais dans le fond, ma réponse, c'est une mesure gouvernementale, elle est légale jusqu'à temps qu'il y ait un tribunal qui dise qu'elle ne l'est pas. Puis c'est là que tu vois la différence d'approche entre Justin Trudeau qui dit, ben nous, on a un avis juridique qui dit que ce serait contraire à l'article 7 de la Charte des droits et libertés qui parle de la liberté. Le droit à la liberté, là, qu'on vient dire, ben, t'es plus libre quand t'es obligé de... Mais il y aurait aussi un avocat qui pourrait dire le contraire, pourrait dire que l'article 7 ne s'applique pas à un demandeur d'asile, exemple. Donc, il y aurait un débat sur la charte, mais le fédéral a décidé de ne pas rentrer dans le débat. Ils ont eux-mêmes jugé qu'il y avait une atteinte potentielle, puis ils ont dit, ben, nous, on n'ira pas dans cette direction-là. Le gouvernement du Québec, c'est le contraire. Ils vont voter une loi sans savoir les impacts au niveau des droits fondamentaux. Donc après, ça va être contesté devant les tribunaux. Puis là, ils vont perdre en cour supérieure, en cour d'appel, puis on va aller en cour suprême. Je vais te donner deux exemples. La loi 21, c'est un peu ça. Le Québec vote une loi sur la laïcité. Ouais. Il y a des gens qui la contestent, c'est-à-dire que ça porte atteinte à la liberté de religion. En cour supérieure, on perd. En cour d'appel, on perd. Là, on s'en va en cour suprême. Le droit d'avoir accès à un CPE pour un enfant de demandeur d'asile... La CAQ a dit « Nous, on ne donne pas de service de CPE aux demandeurs d'asile. C'est contesté devant les tribunaux. On perd en cour supérieure, on perd en cour d'appel, on s'en va en cour suprême. » Donc, le gouvernement de la CAQ, ça ne leur dérange pas de se faire poursuivre et de se faire ramener à l'ordre par les tribunaux avec les fonds publics que ça implique là, de se représenter. Mais le Canada n'a pas cette approche-là.
Bien, c'est la question que j'allais vous poser, mettre la pointe. Ces gens-là, bon, on a un premier ministre qui est un comptable de formation, il est entouré de comptables, mais il y a aussi des contentieux, là, des avocats qui sont autour d'eux, qui leur disent ce qu'ils peuvent faire puis ce qu'ils peuvent pas faire. Particulier qu'un premier ministre comme ça sorte en disant « ben on va être déporté ». Je veux dire, on a encore en tête la déportation des Acadiens. Là. C'était pas vraiment une grande fierté qu'on avait. Là.
Non, mais on est plus sur l'émotion, puis on veut rallier la population. Quand François Legault dit « la la population est derrière moi », mais la population pense que le premier ministre qui dit ça tient la route au niveau juridique. Mais là, si le premier ministre, lui, volontairement ou involontairement, dit des choses qui ne sont pas vraies parce qu'il n'a pas lu les avis juridiques ou parce que c'est un sujet qui est trop compliqué pour lui, mais là, il entraîne la population dans une situation qui est fausse. C'est ça le problème. Là. On s'attend d'un chef d'État. Moi, quand je parle d'immigration avec un de mes oncles, puis il me dit « Ah, des immigrés, il y en a trop », puis tout ça. Qui me disent des choses qui, au niveau juridique, ne tiennent pas la route, ça ne me dérange pas, c'est mon oncle.
Exact.
Mais de la part d'un chef d'État, on s'attend à ce qu'il comprenne l'enjeu. Puis on le voit toujours, quand François Legault parle d'immigration avec Justin Trudeau, que ça plaise ou non là, aux auditeurs puis à la population générale, Justin Trudeau met tout le temps François Legault dans son petit coin parce qu'il comprend les enjeux, il comprend les droits fondamentaux, mais... On parle de charte là, depuis cinq minutes, mais dans la population générale, c'est assez pointu. La plupart des gens ne savent pas que ça existe, ne comprennent pas comment ça marche, ne comprennent pas comment on peut déroger à un droit fondamental. Il y a un test des tribunaux qui appelle est-ce que la mesure porte atteinte à un droit fondamental, oui ou non? Est-ce que les moyens pour porter atteinte, est-ce qu'ils sont raisonnables? Puis est-ce que c'est justifié? Donc, il y a un test des tribunaux qui pourrait dire, bien, effectivement, on porte atteinte à la liberté de circulation en déplaçant des demandeurs d'asile. La mesure, dans le contexte, elle est raisonnable, puis elle est justifiée parce que le Québec, la capacité d'accueil est atteinte. Ça pourrait peut-être passer le test des tribunaux, mais là, il faudrait se prêter à l'exercice. Ça va prendre plusieurs années en cours. Mais je reviens à base. Le fédéral ne veut pas aller là, premièrement. Puis deuxièmement, il n'y a pas une province qui veut accueillir les demandeurs d'asile du Québec parce que François Legault n'a aucun allié dans le Canada.
Oui, puis ça, c'est assez particulier. Puis à un moment donné, il va devoir justement s'en trouver des alliés parce que à la base, on voit actuellement, là, puis moi, je suis pro-immigration, mais à un certain point, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus capable de leur fournir les besoins de base, on n'est plus capable de trouver des logements abordables pour eux, je me dis, OK, on a peut-être fait rentrer trop de monde. La plupart des gens comprennent ça en disant, oui, oui, on est pour l'immigration, mais là, on a peut-être fait rentrer. Mais c'est quoi le plan qu'on peut faire qui serait peut-être meilleur que ce que François Legault propose, c'est-à-dire de prendre ceux qui sont ici, qui viennent d'arriver, puis de les envoyer peut-être en Ontario ou encore Alberta, Saskatchewan, Colombie-Britannique?
Ben, le problème qu'on a actuellement, c'est quand on parle des immigrants temporaires, ouais. Il y a les étudiants, il y a les travailleurs, puis il y a les demandeurs d'asile. Puis là, je parle pas des visiteurs qui sont jamais repartis, mais comme je vous disais la dernière fois,
ouais.
Les volumes sont bien plus grands qu'on pense. Si on comptait tout le monde ici qui a pas de statut, on ferait le saut. Là. Donc, les étudiants, commençons par ça. Le Québec, contrôle 100% de l'immigration des étudiants. Donc, tous les étudiants qui sont ici, le Québec leur a dit oui. Donc, si le Québec trouve qu'il y a trop d'étudiants, c'est son
problème. C'est de leur faute.
Ouais. Donc là, aujourd'hui, il y a un projet de loi qui est présenté à l'Assemblée nationale qui vise à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers. Donc, éventuellement, le Québec va essayer de venir contingenter, contrôler le nombre d'étudiants étrangers, dire on veut un pourcentage minimal de Québécois dans tel programme, sinon on n'ouvre pas la cohorte pour septembre. Donc, le Québec veut réduire les volumes temporaires. C'est une de ces mesures aujourd'hui. Les travailleurs étrangers, il y a deux sous-programmes, je fais ça rapidement. Il y en a un que le Québec contrôle, puis l'autre, le Québec ne contrôle pas. Donc, dans le programme que le Québec contrôle, il y a déjà des mécanismes qui peuvent être utilisés. Mais les demandeurs d'asile, c'est le fédéral qui va traiter le dossier au sein de la Commission d'immigration statut de réfugié. Puis c'est une immigration qui était contrôlée, là. Je vous donne un exemple très précis. Aujourd'hui, avant d'arriver à vos studios, je fais une consultation, comme j'en fais aujourd'hui, j'en ai fait 6, là, des consultations des gens qui me racontent leur situation, puis tout ça. Il y en a une personne qui est ici en visiteur, qui essaie de demander un certificat d'acceptation du Québec pour étudier. Puis là, bon, c'est compliqué parce qu'elle n'a pas les bons documents, puis j'épargne les détails. Mais donc là, je dis, bon, ça va être compliqué pour telle raison. Mais à la fin, la personne me dit, est-ce que je peux demander l'asile? Donc, il y a même des gens qui sont ici, des résidents temporaires. Elle, c'est une personne en visite, qui pensent demander l'asile dans le but de pouvoir rester au Canada pendant 2-3 ans sans se faire déporter puis avoir un droit de travail. Donc, il y a un enjeu de pédagogie aussi. C'est ouais. Un peu François Legault, il ne s'y prend pas de la bonne manière, mais il y aura peut-être un enjeu de pédagogie, justement, de dire, quand on entre dans une case à l'immigration, visiteurs, travailleurs, étudiants, ben on ne peut pas changer. Il faut que ce soit compris par tout le monde, mais ça devient difficile parce que c'est une compétence qui est fédérale. Le Québec n'a aucun pouvoir là-dedans. Là. C'est triste à dire. Le Québec, je vais te donner une solution. Le Québec, lui, tout ce qu'il fait, c'est il rend le service puis il garde ses factures pour se faire payer par le fédéral. Donc moi, ce que je recommandais récemment, François Legault pourrait aller voir tous les premiers ministres des autres provinces, dire écoutez, on va se liguer ensemble contre le fédéral, on va rendre le service, puis on va facturer 150 % du coût réel de la dépense, un peu comme une entreprise qui fait du placement de personnel. Mm-hmm. Je paye un travailleur, 20 $ de l'heure, mais je le loue à l'entreprise à 30 $, je fais 10 $ entre les deux. Donc peut-être que c'est une option. Les premiers ministres des provinces pourraient dire regarde, Justin Trudeau, vous nous obligez à rendre des services à des demandeurs d'asile parce qu'on n'est pas capable de les empêcher de demander l'asile quand ils arrivent au Canada, légalement ou pas. On va rendre le service, mais on va vous facturer 1,5 de ce que ça coûte. Puis comme ça, ben, on va pas priver les demandeurs d'asile de services. Puis nous, ben, on s'appauvrira plus.
Les délais de traitement aussi semblent être une problématique là, pour certains dossiers. Je ne sais pas si vous en avez dans votre pratique, Maître Lapointe, mais il y a des délais de traitement qui sont très longs. La semaine dernière, je recevais Jean-Yves Duclos, puis on parlait de l'obtention du permis de travail, exemple pour les demandeurs d'asile. Puis moi, je lui rapporte ce que les auditeurs, puisque les gens qui travaillent sur ces dossiers-là me rapportent, et lui, il me rapporte totalement le contraire. Donc, pour faire une histoire courte, ce qu'on me dit, c'est qu'à partir du moment où ils demandent l'asile et tout ça, bon, ils ont traversé les lignes illégalement, il y a des chèques d'aide sociale qui arrivent très rapidement pour les aider à s'implanter au Canada, puis les enfants doivent être habillés, doivent aller à l'école, tout ça. Moi, je comprends que le premier chèque doit arriver très rapidement, mais les délais, pour ce qui est ce que les avocats m'ont mentionné, c'est au-dessus de 12 mois. Puis Jean-Yves Duclos me dit, non, nous, maintenant, là, le délai pour ce qui est des permis de travail, c'est 2 mois. Mm. Qui dit vrai?
Les là-dessus, avocats? Je pense que c'est Jean-Yves Duclos. Il y a eu un bout dans la dernière année où c'était plus 12 mois ou 10 mois, là, mais de ce que moi j'ai entendu récemment, puis je fais pas de dossier de demandeur d'asile, là, donc j'ai pas les statistiques récentes précises, mais c'était plus 2-3 mois. Mais je me demande si c'était plus 1-2 mois. Mais de l'autre côté, quand j'étais dans un autre média récemment, on me disait, mais pourquoi on donne pas le permis de travail en arrivant? Mais il y a un enjeu. Si on donne le permis de travail en arrivant à la frontière canadienne, la personne va dire, parfait, je demande l'asile. OK, parfait, on vous donne un permis de travail. Mais là, il n'y aura plus un employeur qui va vouloir faire du recrutement international dans les vrais programmes d'immigration. Tout le monde va demander l'asile en disant « je vais venir travailler gratuitement au Canada sans avoir de procédure à faire ». Et là, on n'aura plus 150 000 demandes d'asile par année, on va en avoir 1 000 000. Là. Si on finit par faire la publicité du permis de travail gratuit à l'arrivée au Canada, on va créer un autre problème. Donc moi, personnellement, je n'irais pas là.
Mais entre ça et les laisser sur l'aide sociale pendant des mois et des mois, c'est quoi qui est le mieux?
C'est ni un ni l'autre. C'est réduire les délais en ayant plus de fonctionnaires à commission de statut de réfugié. De l'autre côté, tout le bout des zones d'attente qu'on voit en Europe et autres, je comprends le fondement, mais il va falloir éventuellement faire 2 catégories de personnes. Ceux qui sont déjà ici puis les prochains qui vont rentrer. Mais comme je vous dis, actuellement, le Canada n'ira pas là. Puis Pierre Poilievre, si jamais il était élu, il n'ira pas nécessairement là. Il ne va pas se mettre à dos les provinces canadiennes qui sont conservatrices juste pour aider le Québec, sachant qu'il peut gagner l'élection sans aider le Québec. Donc, c'est un peu ça l'écosystème actuel dans lequel François Legault y est. Mais je reviens un peu à ce que je disais. Puis c'est pas parfait, hein. Mais j'essaierais d'aller me faire payer une fois et demie le coût réel de la dépense d'offrir des services à des demandeurs d'asile, tout en mettant de la pression justement avec Jean-Yves Duclos pour qu'il y ait des mécanismes plus rapides. Mais n'oubliez pas le point suivant, personne n'en parle dans les médias, mais un demandeur d'asile qui est sur l'aide sociale, qui est approuvé, qui devient un résident permanent, il peut aussi encore rester sur l'aide sociale.
Ouais.
Donc, on ne va pas nécessairement baisser les montants d'aide sociale juste en rendant permanent un demandeur d'asile. Donc, la question est plus complexe que ça. Puis la solution est vraiment pas simple. On peut pas. Une chose qu'on peut faire, puis le Canada le fait déjà, c'est être plus sévère à l'entrée. Et quand le douanier interpelle la personne qui entre au Canada, peut-être dire, écoutez, j'ai l'impression que vous venez pas vraiment voir les chutes Niagara. Là. Vous avez 2 $ dans votre compte de banque, on vous laisse pas rentrer. Donc, en refusant l'entrée, ce serait une option. Être plus sévère au niveau des visas de visiteurs.
À ce moment-là, on les retourne aux États-Unis?
On parle des gens, parce que depuis que le chemin Roxham est fermé, ce que les gens disent dans les médias, c'est que maintenant les gens arrivent par la frontière aérienne en avion. Donc, c'est à l'arrivée au Canada par avion.
Ouais.
Mais moi, la réalité des refus de visa de visiteurs, c'est drôle, j'en vois autant qu'avant. Je suis pas prêt à dire que c'est rendu une passoire. Donc, en arrivant au Canada, comme moi, hier, je revenais des États-Unis en avion, je suis arrivé au douanier, on m'a demandé qu'est-ce que je faisais, j'arrivais de où. Mais la personne en avant de moi, qui venait de je ne sais pas quel pays, la personne lui a demandé, vous êtes parti depuis combien de temps du Canada, puis vous étiez où? Puis la personne répondait vraiment des réponses vagues. Donc, elle est allée dans la file, justement, des gens qui se font questionner davantage par le douanier. Puis c'est là qu'on peut dire, écoutez, moi, je vous refuse l'entrée. Donc, refuser l'entrée, c'est une chose. Baisser les services pour dissuader les gens de venir demander l'asile, ça serait une option. Mais même le gouvernement du Québec est assez radical dans ses mesures pour éliminer le nombre de demandeurs d'asile, au moins le baisser, irait pas là non plus. Donc, couper l'aide sociale. Tu sais, il y a un enjeu de réputation à l'international aussi. Là.
Maître Lapointe, des fois, j'ai peur que vous me disiez « Yann, ça fait longtemps que tu n'as pas été à l'école. » Mais ce qu'on avait appris à l'école, c'est que pour demander l'asile, tu devais prouver que ta vie était en danger dans ton pays. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
La différence, c'est faut faire la distinction entre déposer une demande puis être approuvé. T'sais? Donc, si moi, je veux déposer une demande d'asile à la Commission de statut de réfugié, je peux invoquer des motifs, ça ne veut pas dire que je vais être approuvé. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est la même chose de peu importe le permis de travail, permis d'études. On dépose une demande dans la machine administrative, donc les fonctionnaires vont la traiter, puis après ça, est-ce qu'ils vont l'approuver, oui ou pas, oui ou non. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de déposer une demande. Donc, ce que vous dites, c'est je dois démontrer que... Oui, tu dois démontrer pour être approuvé, mais tu ne dois rien démontrer pour déposer ton dossier. C'est là la subtilité.
Je comprends. Parce qu'on prend le cas d'Haïti, quand il y a eu c'est un tremblement de terre qu'il y avait eu à Haïti de mémoire. Bon, ces gens-là avaient été accueillis par les États-Unis. Puis à un moment donné, Trump était encore au pouvoir à ce moment-là, puis il avait dit aux gens qui venaient d'Haïti, qui avaient été accueillis aux États-Unis, « Bon, là, un moment donné, il va falloir que vous retourniez chez vous parce que le tremblement de terre, ça fait un bout qui est passé. » Puis là, les gens ont commencé à migrer vers le nord. Mm-hmm. Ces gens-là, est-ce la chose qu'ils prônent, c'est « Si je retourne à Haïti, je vais me faire tuer. » Ils n'ont pas le choix s'ils veulent être acceptés au Canada, mais il faut le prouver, ça.
Oui, mais tu ne le prouves pas au dépôt du dossier. C'est ça. Puis là, après ça... Bon, tu sais, l'entente sur les pays tiers sûrs, puis c'est pour ça que les gens passaient par la frontière. Parce qu'une entrée régulière, donc si j'arrive par avion, exemple des États-Unis, ils vont dire là, on t'arrive d'un pays sûr, donc on te laisse pas déposer une demande d'asile. Si tu arrives de la forêt par chemin Roxham, une entrée irrégulière, il y avait une zone grise qui a été exploitée là, fortement. Puis quand on parle des volumes de demandeurs d'asile au Québec, là, on va le vivre encore pendant plusieurs années, là, les écueils des volumes du chemin Roxham, mais les statistiques d'aujourd'hui. Le nombre de demandeurs d'asile par les aéroports est plus élevé en Ontario qu'au Québec. Donc, éventuellement, les volumes vont baisser.
Okay.
Puis la migration là, du sud au nord qu'on a vu, maintenant, c'est du nord au sud. On n'en parle pas tous les jours dans les médias, mais il y a plein d'articles. Romain Chouy, Radio-Canada, écrit là-dessus toutes les semaines.
Ouais.
Des Indiens qui payent 5 000 $ pour se faire traverser aux États-Unis parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'option au Canada. Donc, actuellement, la migration, le solde migratoire nord-sud, c'est le Canada vers les États-Unis. les États-Unis se plaignent, il y a des élections. les États-Unis vont finir par s'y attarder, mais même un pays civilisé avec des lois, les États-Unis ont de la misère à contrôler leurs propres frontières. Donc, c'est pas si simple que ça au niveau du droit international, des droits humains aussi.
Ouais. Est-ce que y a une raison pour laquelle les demandeurs d'asile ou les immigrants préfèrent l'Est du Canada versus l'Ouest du Canada? Parce qu'au Québec, on a accueilli quoi, la moitié des demandeurs
deux
d'asile?
Deux choses, c'est ça. Ben, exact. Le chemin à Roxham, c'est que la brèche était là, là la brèche, ouais. Disons. Parce que les gens, à l'époque du chemin à Roxham, aussi, ils veulent se faire interpeller, là. Ils veulent pas juste arriver par la forêt, puis arriver au Canada, puis qu'il y ait personne. Ils veulent se faire prendre en charge. Ouais. Donc, ils voulaient passer par une place où ça va être reconnu.
Les formulaires sont présents là.
Et puis, c'est ça, puis le numéro dans le système, puis après ça, tu sais, l'examen médical, l'accès aux soins de santé, bon, tout ça. Donc, ça, c'était une chose. Mais aujourd'hui, c'est les aéroports. Tu sais, les vols internationaux, Montréal, Toronto, c'est des aéroports majeurs. Puis c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de gens qui font une demande. Mais ce que je disais aussi dans les médias, c'est que c'est pas si évident que ça quand on veut. Exemple, si on instaurait un principe de zone d'attente, là, mais la personne qui rentre en visiteur ou ma cliente d'aujourd'hui, mais ma cliente, ma non-cliente de consultation qui dit « je demanderais l'asile », on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui déciderait de demander l'asile au Canada, étant déjà ici depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, là, juste pour se sauver, entre parenthèses, le derrière. Là. Donc, ça, c'est un enjeu que le Québec semble vouloir interpeller, mais cette compétence fédérale, mais c'est toute la loi sur l'immigration, le règlement d'application qu'il faut changer en disant peut-être, exemple, ben, une demande d'asile d'un étudiant étranger va être rejetée à sa face même si jamais vous aviez un permis d'études. Mmh. Et comme là, on dirait, ben non, ben, tu peux pas arriver de me dire que t'es persécuté, fait 3 ans que t'étudies ici, puis on le sait bien que c'est parce que t'as plus accès, exemple, au permis de travail post-diplôme à la fin des études. Donc, c'est tout le cheminement d'une demande au niveau de l'immigration Canada qui pourrait être revue. Je pense que le fédéral va en arriver là à un moment donné, puis il va aussi arriver peut-être à un nouveau mécanisme, exemple, de les demandes déposées à partir de telle date, on va vous attitrer dans une zone d'attente puis une répartition. Mais là, le problème de base pour la répartition, c'est qu'il n'y a pas une autre province qui en veut. Là.
Maître Maxime Lapointe, je vais vous poser une question. Je n'ai pas d'entendre la réponse, mais je vais vous poser la question pareil. Est-ce que le gouvernement du Québec, un gars comme François Legault, bon, il y a un contentieux d'avocat, là, mais est-ce que vous avez l'impression, parce que vous êtes carrément en immigration, c'est votre spécialité, est-ce que vous avez l'impression que François Legault, il parle avec des spécialistes comme vous, qui ont les deux mains dans Poutine, qui sont en théâtre de guerre à tous les jours, pour adresser des mots pour Justin Trudeau lorsqu'il est au bulletin 18h. Des cotes de 2, mettons, de 20, 30, 40 secondes où il s'adresse directement à Justin Trudeau en lui donnant des pistes de solutions pour essayer de se sortir du bourbier dans lequel on est actuellement.
Non, ce qui se fait donner, c'est des lignes de com. Là. Exemple, pour la francisation Québec, on coupe des services, on ferme des points de service. Mais ce que le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, dit, c'est on va franciser plus de personnes parce qu'on réalloue les ressources. Donc, ils se font donner des lignes par des firmes de consultants privés là, ou à l'interne, mais ils se font donner des lignes. Quand François Legault dit, exemple, on ne fait pas de déficit parce qu'on a dépensé plus que l'année passée, mais ça fait pas vraiment de sens, mais non. Ça ferme un peu la trappe aux journalistes pendant quelques minutes. Là. Donc, ils se font donner des lignes courtes, mais quand François Legault disait à Paris, Justin Trudeau, il s'arrangera avec les chartes. Moi, je veux qu'il réduise le nombre de demandeurs d'asile de 50 %. Puis comme je vous dis, c'est incontrôlable, les demandeurs d'asile. C'est comme si je vous disais, M. Marceau, je veux baisser de 50 % le nombre de tremblements de terre. T'sais? Donc, c'est pas si simple que ça. Mais éventuellement, puis je suis pas si, disons, négatif, là. Il y aurait éventuellement des mesures pour resserrer le traitement, soit accélérer hein, avec plus de fonctionnaires, ça c'est une chose, mais resserrer les règles au niveau des demandeurs d'asile en justement refusant à la face même une demande qui serait frivole. Exemple, l'Allemagne le fait, là, ils ont des zones d'attente pour des gens qui arrivent d'un pays qui est présumé sûr. Là, exemple, tu arrives de la Serbie, mais tu vas être dans la zone d'attente parce que tu vas être traité vite parce qu'ils vont dire non, Serbie, on reconnaît que tu es un pays sûr, nous, on ne t'acceptera pas. Là. Donc, il y aurait moyen de revoir tout ça. Ça prend du courage politique. Et là, ben, les libéraux de Justin Trudeau vont être. Ça fait bientôt 10 ans qu'ils vont être au pouvoir. Ils vont essayer peut-être quelque chose trop peu trop tard. Pierre Poilievre, on l'entend pas beaucoup sur l'immigration.
Ben, tu sais, puis en tout respect, là, je sais que c'est pas votre vocabulaire, mais actuellement, ce sujet-là, c'est un bâton de marde. et Pierre Poilievre, s'ils commencent à parler de ça, la première des choses que les libéraux vont faire, c'est l'accuser de racisme, comme quoi Pierre Poilievre serait un raciste et tout ça. Donc, je comprends, là, au niveau média, je le comprends de ne pas vouloir embarquer là-dedans, mais tôt ou tard, il y aura à se prononcer puis à amener des solutions. Mais je ne vais pas vous faire de politique, mettre la pointe, mais on voit la capacité d'un bon gestionnaire par son entourage. T'sais, on peut pas être bon dans tout. Mais on doit s'entourer de gens qui vont compenser peut-être les petits manquements qu'on peut avoir dans nos connaissances. Puis, à mes yeux, à moi, un gars comme François Legault aurait tellement avantage de jaser avec des spécialistes comme vous en immigration pour, après ça, sortir dans les médias puis adresser des recommandations à Justin Trudeau qui se tiennent. Mmh. Des pistes de solutions qui pourraient faire en sorte que Trudeau dit « OK, là, ils ont vraiment des bonnes idées. Là. Je ne peux pas faire autrement qu'embarquer dans leur patente. »
Avec des demandes d'accès à l'information au fédéral, on est capable de voir qu'est-ce que les fonctionnaires à l'interne du ministère de l'Immigration présentent au ministre comme exemple. Voici la problématique. On a eu 50 000 demandes de visa de visiteurs d'étudiants, de visiteurs indiens au mois de juin l'année dernière. Là, l'enjeu est là. La solution, ce serait de mettre l'intelligence artificielle et essayer de refuser le plus de dossiers possible. Puis là, après ça, le ministre, il prend sa décision. Mais au fédéral, on le voit, ça. Mais au Québec, puis c'est pas juste en immigration, on le voit pas nulle part. Tous des sujets que vous couvrez à la journée longue, ouais. Le troisième lien, le tramway. Non, mais on est sur le ressenti puis le sondage du moment. En immigration, c'est la même chose. On joue dans un film depuis le mois de janvier 2024 où François Legault a envoyé une lettre à Justin Trudeau. Ensuite, il y a eu une annonce avec Jean-François Roberge, Christine Fréchette, il y avait Bernard Drinville, il y avait plusieurs ministres en disant on n'est plus capable de donner service, on exige une rencontre. Il y a eu une rencontre en mars, il y a eu une rencontre en juin. On s'attend à des résultats. Donc, on est là-dedans, on est dans un film, on est beaucoup sur le... On veut aller chercher l'épiderme sensible des Québécois en disant, mais vous voyez, là, je suis désespéré. Je veux, mais... Puis je fais une parenthèse là-dessus. Le Parti québécois, lui, qui est premier dans les sondages, on attend aussi son document. Là. Donc, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils disent que leur document est prêt à 98 % leur document de réduction des volumes d'immigration temporaire permanente. Moi, j'ai hâte de le lire parce que c'est facile de dire, si on avait les pleins pouvoirs en immigration, ça n'arriverait pas, mais dans la réalité... les pleins pouvoirs en immigration et on avait la frontière à gérer au complet, on serait aussi signataire de conventions internationales au niveau des droits de l'homme puis des conventions de statut de réfugié. Bon, je ne suis pas certain qu'on réglerait le problème des demandeurs d'asile aussi facilement que dans une clip de 5 secondes dans les médias, Paul Saint-Pierre, Plamondon peut le faire. C'est des sujets qui sont très complexes.
Oui, puis si j'étais eux, je les laisserais traîner le plus longtemps possible. Une fois que les élections arriveront, ben ils pourront se prononcer sur ce qu'ils veulent faire. C'est là, souvent, où ils racontent un peu de vent, là.
Ben, c'est ça qui est triste quand même. Bon, là, parce que hier, on voyait, c'est Pascal Paradis devant les médias. C'est Alain Laforêt qui disait... Oui, mais M. Paradis, vous êtes le gouvernement en attente, on a hâte d'entendre vos positions. Puis là, il bégayait parce qu'il était raison en disant ils s'en viennent, mais Christy, sortez-les, là, tu sais, si c'était prêt à 98 % votre document, finissez le 2 % puis arrêtez de faire comme si vous connaissez ça. Tu sais, on lira tout le monde ensemble, on pourra le commenter, mais d'ici là, vous n'êtes pas crédible.
Maître Maxime Lapointe, vous êtes spécialiste en immigration. Pour les gens qui vous entendent, qui aimeraient vous rejoindre, on peut vous rejoindre à quel endroit?
Bon, le plus simple, c'est sur le site internet www.mlaimmigration.com. Sinon, au bureau, mais on réfère beaucoup les gens en rendez-vous. Actuellement, je commence aucun mandat avant d'avoir fait une consultation, quitte à l'accréditer du mandat. Là, mais c'est tellement complexe avec les changements juste des dernières semaines.
Ouais.
Surtout, exemple, pour les étudiants étrangers... j'avais une consultation cette semaine. Il y a des choses qui entrent en vigueur au 1er novembre qui fait que la dame qui est en France, qui veut venir étudier ici, bien, son parcours ne fonctionnera plus. Donc, je ne peux pas juste répondre par texto « OK, ça va bien aller » ou des fois, les gens nous demandent « ça va coûter combien? » Mais la question de base, ce n'est pas « ça va coûter combien? » C'est « est-ce que je me qualifie? »
Exact. MLA, immigration.com. Voilà. On fait une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. La semaine, on jase de ce qui se passe chez toi.
Juste pour faire un aparté, parce que tu me vois travailler, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, Marceau? Pierre Fitzgibbon démissionne. Ouais. Et, je veux dire, on s'y attendait pas.
La fin de semaine, on laisse la musique parler. De 7 à 10, on se la joue MTV Unplugged. Avec le Rock and Chill. À 10h, Hello Derry tourne le meilleur rock de 90 à aujourd'hui. Puis à 15h, 15h, Reg Laplanche et Matt Marcotte débarquent avec un paquet d'anecdotes puis de succès bien rétro.
On va vous jouer un bon vieux rock. Bien rétro.
Ben, du temps qui était à la TV, là. Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio. À Boulevard 102.1 pour l'Action de grâce, sors ta chemise à carreaux pis ta veste de laine. On lance la saison du cocooning avec le spécial acoustique du Weekend Rock and Chill.
Toute la fin de semaine, on vole les chansons d'Audrey Pinchot pis on en pitch un peu partout dans le boulevard du rock pis dans le volume à planche.
Du Radiohead acoustique.
Du piano sur du The Offspring.
Pis même des covers de Johnny Cash.
Toute la fin de semaine, on sort les guitares acoustiques puis on se la joue rock and chill.
Présenté par Identité Québec. Faites votre demande de pardon et soyez financé sans intérêt en une seule étape. IdentitéQuébec.ca. À un clic de votre liberté.
Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement ses côtes levées à toutes les sauces. Classique, whisky et les deux nouvelles saveurs aux pommes à Jules et asiatique piquante.
Portes et fenêtres Québec, le détaillant spécialisé Fenplast depuis 35 ans. Fenplast est chef de file dans l'industrie des portes et fenêtres au Québec et fabricant numéro 1 selon le magazine Protégez-vous en 2024. Pour un temps limité, Fenplast offre un rabais de 12% sur ses produits. Subvention Réno-Climat est prêt sans intérêt de 40 000 sur 10 ans. Financement sur place. Faites vite, nos dates d'installation s'envolent rapidement. Passez chez Portes et fenêtres Québec, les experts recommandés par CAA Habitation. Trois boutiques dans la grande région de Québec pour mieux vous servir, à Lévis, à Beauport et à Québec, rue Marais, voisin du métro.
Mettez vos initiales juste ici, puis une signature en bas.
Un instant. Avant de signer pour une maison, appelez MRL Courtier hypothécaire. C'est gratuit, sans obligation, et ça vous donne accès à plusieurs institutions financières. MRL Courtier hypothécaire. Des experts qui connaissent leur affaire.
Vous prenez une direction au hasard et roulez vers l'inconnu. Une remorque est attachée à votre Toyota Tundra qui la tire avec aisance. La suspension effleure les nids de poules parsemés sur la route. Quand soudain, le tonnerre se fait entendre. Oups, ça c'est mon estomac. Arrêtez de rêver et prenez le volant de votre nouvelle Toyota. Découvrez le Tundra, présentement en stock chez votre concessionnaire Toyota, et voyez nos offres sur achetermatoyota.ca.
La saison bat son plein au centre de glace Intact Assurance.
La programmation libre de patinage, de course et de marche est offerte à tous les jours.
Consultez l'horaire et créez votre compte à centrededeglace.ca.
Allez-y, c'est gratuit.
Gratuit pour les résidents de l'agglomération, à coût modique pour les visiteurs.
Oyez, oyez! Avec une réservation de 2 nuits du 15 octobre au 19 décembre, au Chalet en Boiron ajoute 2 nuits gratuites à votre séjour. Au Chalet en Boiron, un village de 80 chalets en pleine nature. Réconfort et quiétude au rendez-vous au chaletenboiron.com.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs. 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Le Grand Marché de Québec.
Bonjour, je suis Marie-Christelle Chica, propriétaire de Zaytoun Cuisine Libanaise au Grand Marché de Québec. On vous cuisine des plats traditionnels libanais authentiques. Venez voyager le temps d'une bouchée. Je fais partie des marchands fiers d'être au Grand Marché de Québec.
Pour Énergir, c'est important de s'unir pour un avenir plus durable. Ça veut dire qu'Énergir travaille à mettre en place plus de solutions, plus responsables pour être plus efficace et émettre moins de gaz à effet de serre. Le but, c'est d'être de plus en plus nombreux à créer et utiliser plus d'énergie renouvelable et ainsi consommer moins d'énergie fossile. Parce que c'est en rassemblant nos énergies qu'on peut en dépenser moins. En fait, qu'on peut en faire plus pour en faire moins. Puis ça, c'est un gros plus. On fait tous partie de l'équation pour un avenir plus durable. Énergir, pensez l'énergie autrement.
Une nouvelle poutine à saveur country est arrivée chez Ben & Company. Une poutine composée de frites ondulées, de fromage en grains du Québec, de cornichons, d'une tonne de bacon et du délicieux poulet Ben & Company. Le tout enrobé de la sauce à côte levée traditionnelle. Un vrai rodéo pour les papilles.
Du 11 au 14 octobre prochain, Québec célèbre les arts de la rue avec Réverbère. Au cœur du Vieux-Québec, de 13h à 20h, laissez-vous surprendre par une foule de performances spontanées. Soyez-y, c'est gratuit. Détails au ville.qc.ca/Réverbère.
À vos pinceaux! Jusqu'au 21 octobre, économisez 30% sur la peinture d'intérieur Régal Select de Benjamin Moore. Cette vente se déroule chez tous les détaillants Benjamin Moore de la région, dont Décor Décoration La Montagne, expert en peinture et décoration, établi à Québec depuis 1980. La peinture Régal Select est la peinture Benjamin Moore la plus populaire depuis des générations et avec 30 % de rabais, il faut en profiter. Décoration La Montagne, 1570 rue Jules Verne à Sainte-Foy. Détail en magasin.
À l'Académie Saint-Louis, vos petits s'émerveillent avec la robotique et l'anglais enrichi dès le préscolaire. Réservez votre séance d'admission au aslouis.com.
Parce qu'en 2024, un ordinateur, c'est pas mal plus commun qu'un Walkman jaune.
Sony. Walkman.
Votre web radio au blvd.fm.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir.
Vous êtes dans Mars au soir, on a le plaisir de passer la soirée en compagnie de Maître Maxime Lapointe, qui est spécialiste en immigration. Maître Lapointe, je veux que vous nous mettiez ça concret, là, votre métier avec les migrants, avec ceux qui veulent immigrer au Québec, ou encore avec des dossiers qui sont actifs, puis des gens qui vont vous consulter, des gens qui sont, je sais pas, à l'Université Laval, qui étudient, puis qui disent « moi, je veux rester ici au Québec ». Avez-vous des cas concrets à nous présenter?
Ben oui, parce que j'ouvre 15 plages de consultation par semaine. C'est majoritairement plein. Donc, ça me permet de voir vraiment les problèmes des gens puis d'essayer de répondre puis de donner leur juste. Des fois, ce n'est pas la réponse que les gens veulent entendre, là, surtout avec les reculs qu'on voit actuellement. Mais, par exemple, si je fais trois grandes catégories, disons des étudiants, des travailleurs puis des gens qui demandent la résidence permanente. Là, bon, je vais vous donner deux, trois exemples par catégorie. Donc, des étudiants, on en voyait beaucoup, des gens de 50 ans, de France, qui décident de venir étudier au Québec avec un permis d'études pour la personne, exemple, la requérante principale, exemple, la dame fait un cours DEP, ça donnait accès à un permis de travail ouvert pour le conjoint, les enfants viennent, vont à l'école. Donc, on arrive à une famille de quatre, finalement, avec un permis d'études. Donc, le Québec a dit oui à une personne, mais on sert quatre personnes, c'est ça la réalité. Et là, le fédéral a fait beaucoup de petites mesures pour venir contrôler le nombre d'étudiants étrangers. Et j'en donne deux, là. Le permis de travail post-diplôme, donc le permis de travail qui permet d'étudier à la fin des études, à partir du 1er novembre 2024, va être restreint à certains domaines d'études seulement, donc dans la santé, dans les métiers spécialisés, entre autres. Et exemple, j'ai un exemple, le cours d'adjointe juridique ou assistante administrative lui donnera plus d'accès à ce permis-là. Donc, ça veut dire, la personne, ça dit, bien, je viens faire le cours, mais après, je ne peux pas travailler, elle ne voudra plus venir. Puis depuis février 2024, le fédéral a enlevé le permis de travail ouvert pour, exemple, le mari de ce cas-là. Donc, cette famille-là, des Français de 50-55 ans qui décident de lâcher leur carrière en France pour s'en venir, on n'en verra plus. Là.
Okay. Mais ça, c'est une stratégie, là. Je veux dire, à 55 ans, décider de t'en venir au Canada.
Oui, c'est un projet, là. C'est un projet de vie, puis ça a un certain impact pour la société. Donc, des francophones qui décident de venir. Moi, j'ai rien contre, mais là, on n'en verra plus pour vrai, là. Donc, ça, c'est un cas. Là, on enlève le permis de travail à la fin d'études. On avait déjà enlevé le permis pour le conjoint. Ça va dissuader. C'est un peu ce que le fédéral est en train de faire. Là. Donc, ça, c'était pour les étudiants.
Mais c'était des failles que les gens de l'extérieur voyaient dans notre système qui faisaient en sorte qu'ils s'asseyaient par là?
C'est pas une faille. Là. Le Québec, le Canada, fait la promotion des études au Québec. Là. Ouais. Donc, tu sais, il y a des... La semaine passée, pas en 2002, le gouvernement du Québec était au Bénin pour aller recruter puis attirer des étudiants étrangers. Donc, quand le premier ministre ou le ministre d'immigration disent qu'il y a trop de temporaires en parlant, exemple, des étudiants, puis on va les courtiser au Bénin, même des fonds publics. Donc, on parle des deux côtés de la bouche.
Puis des fois, c'est particulier. Moi, j'ai travaillé longtemps la restauration pendant mes études, puis on était au Cosmos. Je m'en rappelais comme si c'était hier. On était au début des années 2000, Maître Lapointe, puis à la fin de mes soirées, moi, j'étais serveur, là. Puis à la fin de mes soirées, j'allais jaser avec les plongeurs qui étaient en arrière, puis pour la plupart, c'était des nouveaux arrivants. Puis en discutant avec eux, je m'aperçois que les trois qui étaient là, c'était des gars, bon, c'est des gars avec la peau noire, ils provenaient de différents pays, de différents pays. Et je leur demandais ce qu'ils faisaient ici, tu sais, pourquoi ils étaient venus à l'Université Laval. Puis il y en a un qui avait une cinquantaine d'années, qui était docteur dans son pays, qui s'est fait rencontrer par des fonctionnaires fédéraux en disant « on veut vous accueillir chez nous ». Puis une fois rendu ici, il s'est installé et tout ça. Il a dû refaire un cours à l'Université Laval pour devenir médecin. C'était incroyable. Ils sont allés le chercher, puis on ne lui avait pas donné toute l'information nécessaire pour qu'il puisse pratiquer sa profession une fois rendu ici.
C'est sûr, quand il y a un autre professionnel, ça devient plus compliqué aussi, ouais. Parce qu'on rajoute non seulement
mais ça se dit au départ. Ça, c'est lui, 50 ans, retourner à l'école, mettre la pointe, ouais. C'est assez particulier. Lui, il était père de 6 ou 7 enfants. Sa conjointe ne travaillait pas. Fait qu'il étudiait à l'Université Laval. Il était plongeur 3 ou 4 soirs par semaine. Puis il espérait faire son doctorat.
Là. Mais ce bout-là, c'est intéressant. Puis moi, ça me rappelle aussi, exemple, quand je travaillais au pub à l'université, mais... Les gens se mettent dans des situations financières extrêmement précaires, ouais, pour espérer à une vie meilleure au Québec, au Canada. Et là où ça vient chien, hein, actuellement, c'est que les règles changent. Pense-y, là, il y a des gens qui sont déjà ici comme étudiants et là, ils disent « Bon, mais moi, je finis mon cours au mois de décembre. Je veux avoir mon permis de travail post-diplôme, demander la résidence permanente. » Puis là, ils se rendent compte qu'au 1er novembre, ils pourront plus.
Mais ça, il peut pas avoir de clause grand-père.
Le Canada, en fait, de moins en moins. Là. Déjà là, qu'ils donnent un mois, c'est quand même beau. Là. L'autre jour, on a vu des mesures qui entrent en vigueur la journée même. Parce que quand on donne trop de temps, des fois aussi, bien, on vient congestionner la machine administrative. Donc, mais c'est pas parfait. Mais c'est ça que ça fait, une décroissance. Moi, ce que je dis, une croissance, que ce soit en affaires ou en immigration, une croissance facile. T'sais. Moi, j'ai une croissance dans mon bureau. J'engage, ouais, une personne de plus. Les dossiers prennent plus de temps à être sortis. C'est pas plus grave. Mais une décroissance, là, j'ai moins de travail à donner à mes employés. Il faut que j'en mette un dehors. C'est pas facile. Donc, une décroissance de l'immigration, le Canada veut passer de 7 à 5 les immigrants temporaires par rapport à la population du Canada. Donc, si on veut baisser les volumes, bien, il y a des gens qui vont devoir repartir chez eux. Là. Donc, il va y avoir des histoires d'horreur avec le spectre de « est-ce qu'on demande l'asile, encore une fois, pour se sauver? » Donc, ça va être « attachez votre ceinture ». Un autre exemple, pour des travailleurs, vous me parlez de travailleurs étrangers.
Ouais.
Depuis le 26 septembre, dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, on a une limite de 10 % de travailleurs étrangers. Avant, pour des postes en pénurie chronique, il n'y avait pas de limite. Donc, l'exemple que je donne, c'est j'ai un restaurant de type cage au sport, j'ai 100 employés, j'ai 30 cuisiniers. À partir du 26 septembre, j'ai droit à 10 cuisiniers. Donc, mes 20 prochains cuisiniers dont les permis finissent, je ne peux pas les renouveler. Donc, les 20, donc ça fait 20 cuisiniers de moins, leur famille, les enfants. Avec des mesures comme ça, les volumes vont baisser. Le fédéral aussi, dans sa réforme du 26 septembre, refuse de traiter. Puis c'est correct, là, on revient un peu comme c'était avant la COVID. On refuse de traiter des dossiers dans des régions où il y a plus que 6 % de chômage. Actuellement, Montréal, Gatineau, Trois-Rivières. Donc, aujourd'hui, j'avais une consultation. Un employeur à Trois-Rivières, on veut prolonger le permis de travail de la personne, on ne peut plus traiter le dossier, il y a plus que 6 % de chômage. Donc, il faut trouver une solution qui passe beaucoup par monter les salaires, parce que c'est juste les postes en bas du salaire médian qui est de 27 à 47 $. Mais là, l'employeur, je ne sais pas si c'est simple que ça. Si tu montes le salaire du travailleur étranger, il faut que tu montes les salaires de tous les Canadiens qui ont, ouais, les mêmes fonctions. Donc, Justin Trudeau le dit, puis c'est la prémisse du programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est les Canadiens d'abord. Donc, éventuellement, les employeurs vont devoir essayer de recruter localement. Mais moi, quand je parle aux employeurs à qui je représente, ils me disent « Maxime, c'est pas que je veux pas recruter des Canadiens, il n'y en a pas. »
Oui, mais c'est pas un peu ça qu'ils font aux États-Unis? Pour prendre quelqu'un de l'extérieur, tu dois prouver que tu n'as pas été capable de combler à l'interne.
C'est le principe partout. Moi, quand, ouais, quand j'ai travaillé à Hong Kong en 2010 comme avocat, il fallait montrer pourquoi on avait besoin d'un avocat québécois à Hong Kong. Ouais. Mais aux États-Unis, par contre, c'est qu'il y a une culture du travail sans papier beaucoup plus forte qu'au Canada. Puis est-ce que le Canada va s'en venir vers ça? Il faut comprendre, il y a tellement eu d'étudiants étrangers, de travailleurs étrangers dans les dernières années dont les permis ne se renouvelleront plus à coup de petites mesures comme ça. T'sais, le Canada disait que les étudiants étrangers, avec le post-diplôme, là, c'est 50 % des 3 millions de résidents temporaires au pays. Donc, c'est 1,5 million de personnes. Sur 1,5, il y en a peut-être le 2/3 qui ne réussiront pas à acquérir la résidence permanente. Donc, ils vont devoir quitter. Donc, ces gens-là, ben c'est ça. S'ils décident de travailler au noir, on va finir par ressembler un peu comme les États-Unis, où est-ce que finalement, tout le monde se ferme les yeux dans la cuisine, il n'y a personne qui a de permis.
Oui, mais ça laisse la place à la surexploitation de ces gens-là. C'est pratiquement de l'esclavage aussi. Là. Donc, tu les paies moins cher, tu leur fais faire à peu près n'importe quoi, puis le 40 heures, il s'en va. Là, tu vas faire 60, 70 heures, 80 heures au salaire, des fois, qui peut être plus bas que le salaire minimum. Là.
C'est ça. Mais aujourd'hui, sur mes réseaux sociaux, quelqu'un commentait justement en me disant c'est le temps de mettre fin aux permis de travail fermés qui sont liés à un employeur, mais c'est facile à dire, mais dans la réalité, ça veut dire quoi? On laisse rentrer tout le monde au Canada, puis on leur permet de travailler puis de compétitionner le marché de l'emploi. T'sais, le programme des travailleurs étrangers temporaires est là quand même pour protéger le marché de l'emploi canadien. Là, donc, il sert un peu à quelque chose. Si on décide de le mettre au vidange, Puis il n'y a plus de règles. Je pense pas qu'on va arriver à des solutions qui sont gagnantes là, pour l'économie de la province. Là.
Maître Lapointe, est-ce que souvent l'été, je vais faire un tour sur l'île d'Orléans? Je trouve ça magnifique de me promener en moto, puis j'arrête au petit port qu'il y a à l'île d'Orléans avec des bateaux et tout ça. Puis je vois la belle gang qui descend de l'Amérique du Sud ou qui monte de l'Amérique du Sud, qui sont là, qui sont des travailleurs saisonniers, puis tout sourire, puis sont dans leur break, sont très heureux. Est-ce que ça va les toucher, ces gens-là? Pour ce qui est des agriculteurs, est-ce qu'ils risquent d'être coupés aussi?
Le programme des travailleurs saisonniers est à part. C'est pas dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Il y a ses propres règles. Puis il y a des assouplissements, exemple, au niveau du nombre de travailleurs par lieu de travail dans le domaine agricole. On l'a aussi dans le domaine de la transformation alimentaire, dans le domaine de la santé. Donc, il y a des exceptions. C'est pas un programme où on va toucher, sauf qu'on va venir quand même mettre à l'amende un employeur fautif. T'sais, on voit souvent des cas limites où est-ce qu'il y a 40 personnes dans un dortoir. Là. Donc, on peut quand même les sanctionner. Puis le programme, il sert à ça aussi. Il y a des conditions, puis il y a des sanctions.
Puis est-ce que... ça ne touchera pas les travailleurs saisonniers pour, mettons, qui travaillent à l'île d'Orléans. On en avait entendu parler. Je pense qu'une des fois où vous étiez venu en studio avec nous autres, c'était le Club Med, dans le secteur de Charlevoix. Vous étiez venu nous voir. Puis là, eux se plaignaient de la façon dont le Club Med les traitait. En avez-vous souvent des dossiers comme ça?
Oui, mais c'est dur pour moi de les représenter souvent parce que je représente des employeurs. Donc, des fois, si c'est moi qui représente l'employeur, je ne veux pas représenter l'employé, je suis en conflit d'intérêt. Il y a un permis de travail pour un travailleur vulnérable qui est possible depuis 2021, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est un permis d'un an. Donc, j'envoie souvent des employés qui me disent « Ben là, j'ai un permis de travailleur vulnérable, il finit dans 2 mois. » Là, on revient dans le programme régulier des travailleurs temporaires. Mais parenthèse sur les Mexicains du Club Med, on en a vu plusieurs faire le tour des restaurants de la ville de Québec pour dire « Voulez-vous m'engager? Travailler, pas de permis. » Et le Québec s'est doté d'outils pour refuser les demandes autant de résidence permanente que de prolongation de statut temporaire pour des gens qui ont travaillé avec le mauvais permis, qui ont étudié pour la mauvaise école. Et là, j'en ai eu un cette semaine, puis je vais absolument vous en parler, parce que c'est quand même spécial. C'est un travailleur qui est ici depuis 2021. Il avait un permis d'un an qu'on a renouvelé. Et il n'est pas allé activer le permis, c'est-à-dire il a fait la démarche dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Service Canada a dit oui, Immigration Québec a dit oui, c'est comme le papier A qui te permet d'aller demander le papier B qui est le permis de travail. Lui, il ne l'avait pas fait. Donc finalement, il est reparti en Belgique, il est revenu par avion plus tard de ses vacances. Et là, ils lui ont quand même à la douane imprimé le permis pour la durée restante de son autorisation de 3 ans. Mais là, j'ai dit, oh, demander la résidence permanente, ça va apparaître, tu as travaillé pas de permis. Prolonger ton permis de travail, ils demandent les relevés 1, le relevé annuel du Québec.
Ouais.
Ils vont voir que tu as un salaire à temps plein, même disons, si tu cachais que tu as travaillé. Donc, le Québec s'est doté d'outils. Cette personne-là, européen, 30 ans, il braillait au téléphone. Il dit « T'arrêtes de me dire que je pourrais non seulement jamais demander la résidence permanente au Québec, mais je pourrais même pas prolonger. Mon employeur a des projets pour moi, tout ça. » Donc là, on les voit, la limite de la rigidité des fonctionnaires du Québec. Oui, c'est correct qu'on veut baisser les volumes, on veut que des gens repartent chez eux, mais là, il y a quand même des francophones qui vont devoir quitter. Puis j'en ai un autre cas, rapidement, où là, c'est assez strict. Là. Depuis 2018, conduite avec facultés affaiblies au Canada, c'est devenu une infraction qui est de grande criminalité. Donc, si tu es coupable d'une infraction de grande criminalité, tu vas être interdit de territoire au Canada.
Ça, c'est pour les immigrants.
Oui, mais c'est pour tout le monde, mais ça affecte les immigrants. Là. Ben, nous, faculté affaiblie, exemple, tu peux plus rentrer aux États-Unis. Là,
les facultés affaiblies, le douanier américain a le droit de te refuser, mais à cette heure, en tout cas depuis quelques années, tu passes assez facilement, là, que ce soit par les airs ou par la terre. Mais si vous voulez être sûr de passer, surtout en ce qui a trait au métier de camionneur, exemple, on doit passer par des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui vont te donner un genre de waiver.
Un waiver, oui. Mais le Canada, pour les facultés affaiblies, donc moi, j'en vois de plus en plus, des travailleurs étrangers, des gens en attente de résidence permanente, des gens qui ont obtenu la résidence permanente, qui disent « Hey, j'ai pété une balloune. » Puis là, j'en ai un dossier comme ça, la personne, dossier de résidence permanente, qui est en traitement. Il serait approuvé si on l'avait déposé plus tôt parce que la personne se qualifiait, mais elle était un peu paresseuse à m'envoyer la documentation. Donc, ça a été plus long. Mais là, c'est fatal pour lui. Là. Donc là, lui, Immigration Canada, il demande le primitif de cours. Mais il me le demande à tous les mois parce qu'il attend juste qu'il soit coupable de faculté affaiblie pour dire « on refuse ta résidence permanente ». Donc, ils l'attendent dans le détour. Donc, c'est ça, c'est des enjeux où la résidence permanente, autant l'avoir que la garder, parce que si tu es résident permanent, tu peux perdre ta résidence permanente pour grande criminalité. Donc, où les règles sont très strictes. Dans les deux exemples que je te donne, il y en a un où je trouve que c'est trop strict. L'exemple, le travailleur qui ne le savait pas prendre son permis, tout ça. Bon, je pourrais me fermer un œil. Les facultés affaiblies, c'est plus dur.
OK. Maître Lapointe, pour les gens qui veulent vous rencontrer, qui ont besoin d'un spécialiste en immigration, c'est mlaimmigration.com. Voilà. Un gros
je
merci.
Je passe au bureau, chemin Saint-Louis, 1654. Pour dire bonjour, fait toujours plaisir. Les réseaux sociaux, on n'est pas si fort que ça. On est plus dans vraiment service à la clientèle.
Mm-hmm. Un gros merci d'être passé en studio. Ça a été franchement intéressant. Puis on se redonnera rendez-vous dans quelques semaines ou quelques mois pour reparler d'immigration. C'est franchement éducatif ce que vous nous avez apporté ce soir.
Merci beaucoup.
On s'arrête là-dessus. Je vous souhaite de passer une belle soirée sur les ondes de Boulevard 101. Et demain, 10h, on sera là avec l'Open Mic, avec Mme Audrey Pinchot. Salut, bonne soirée.
Marceau, le soir.
Spécialiste et expert en implants dentaires depuis 25 ans, faites confiance au Dr Steve Bernier à Lévis, Québec et à Saint-Georges. 418-835-5858.
Quoi de plus réconfortant que le légendaire pâté à l'oie de Normandin? Fabriqué à la main et authentiquement maison, dès la première bouchée, vous succomberez. Le pâté à l'oie, c'est la tradition réinventée par Normandin. Généreusement garni d'oie, de viande et pommes de terre sous une pâte dorée et feuilletée. Accompagné de leur ketchup aux fruits maison, il est doublement savoureux. Au comptoir du prêt à emporter ou en salle à